Eh bien, mes amis, on va encore demander à Dieu la grâce dont nous avons besoin pour notre étude ce matin. Et je voudrais vous rappeler que la rencontre de cet après-midi sera juste la fin de ce chapitre. Je me suis trompé dans la presse que j'ai eue en revenant d'une mission dans l'Abitibi et l'Est de l'Ontario. J'ai mis chapitre 14, verset 1 à 25, alors que vous avez dû remarquer que j'aurais dû mettre au moins verset 1 à 33. Je laissais les versets au fond 33b pour l'introduction de cet après-midi. Dieu notre Père, nous voulons te demander que tu nous conduises dans ce que nous avons à dire ce matin, que tu gardes en effet nos lèvres et que tu nous possèdes entièrement afin que nous soyons le canal qui ne laisse passer que ce qui vient du sanctuaire, indépendamment de toute l'actualité dans laquelle nous nous trouvons plongés et qui peut nous influencer. Que ta bénédiction repose sur nous et que nous puissions terminer cette retraite dans la paix et dans la joie qui sont les manifestations de ton amour. Amen. Alors, mes amis, comment se sont passés vos ateliers? Comment? Vous ne dormiez pas. Alors, c'est encourageant. Bon, j'espère que je ne vous endormirai pas. Vous avez remarqué que notre sujet, c'est quand même le don de prophétie exercé en accord avec la foi. De sorte que je ne veux pas m'étendre sur d'autres manifestations spirituelles que nous avons mentionnées en lisant le chapitre 12, et en particulier le don des langues, sur lequel peut-être vous auriez aimé que j'élabore davantage déjà hier soir, et aussi parce que, en lisant le chapitre 14, il est question en effet du don des langues. Mais si je veux commencer à vous parler à fond du don des langues ou de chaque don spirituel, ce serait une autre retraite qu'il faudrait. Nous avons eu à cœur cette année la prophétie. C'est pas dans le premier sujet, c'était la parole prophétique qui brille dans un lieu obscur et que nous ne devons pas négliger et que dont nous ne devons pas faire une interprétation particulière. Puis, dans la deuxième, comme on l'a rappelé, c'était l'esprit de la prophétie. C'est quoi? C'est le témoignage de Jésus. Et puis maintenant, alors, le don de prophétie dans le temps actuel aussi, eh bien, nous ne devons pas dépasser la mesure de foi qui était partie à chacun de nous quand nous prétendons prophétiser et nous devons apporter une parole venant de Dieu, mais qui est en accord avec l'Écriture sainte, ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Ça doit être en accord total. De sorte que tout ce qui n'est pas en accord, ou tout ce qui n'est pas confirmé par l'Écriture, vous pouvez le mettre de côté, parce qu'il y a des faux prophètes. Et ce n'est pas parce que on se croit spirituel, qu'on dit toujours des choses justes. Nous devons donc veiller constamment. Donc, en ce dimanche matin, 24 novembre 1991, nous poursuivons le don de prophétie exercé en accord avec la foi. Vous avez lu ce chapitre 14e et je vous incite, si vous ne l'avez pas fait, à corriger, donc, non pas verset 25, mais 1 à 33. Si vous vouliez trouver le mot qui revient combien de fois ? Cette fois, c'est lequel le mot, vous l'avez trouvé ? Édification. Au fond, qu'est-ce qui doit servir dans l'Église ? C'est l'édification. Donc, les dons qui doivent se servir dans l'Église doivent être édifiants, ce qui peut édifier l'Église. Alors, après la doctrine des dons spirituels que nous avons trouvée au chapitre 12e, nous avons considéré au chapitre 13e que l'amour était vraiment nécessaire au service de ces manifestations. Ça a été l'objet de notre étude d'hier soir. Et alors, ce matin, nous considérons dans le chapitre 14 la manière dont les dons doivent s'exercer dans une communauté. C'est le grand sujet du chapitre 14 et ça répond à la première question. Nous avons dit, si le chapitre 13 nous a révélé la condition indispensable pour l'exercice des dons spirituels mentionnés au chapitre 12, quel est le grand sujet du chapitre 14? Eh bien, c'est la manière dont les dons doivent se manifester dans la communauté. Et aussi, il y a une gradation dans les dons. Et qu'est-ce qui est le plus avantageux pour l'Église? Est-ce que c'est le don des langues ou est-ce que c'est le don de prophétie? C'est le don de prophétie. Alors, pourquoi ce don-là est-il supérieur au don des langues? Parce qu'il édifie, parce qu'il est compris, n'est-ce pas? Et le Seigneur donne les dons en vue de l'utilité commune. Il faut que nous soyons édifiés les uns les autres. Et alors à la question 5, est-ce que vous avez répondu? Un prophète à l'heure actuelle peut-il apporter des révélations que nous n'aurions pas dans les Écritures? Non, c'est clair. Hein? Alors vous mettez de côté tout ce que l'on peut vous raconter, et j'ai juste dit cela au début, quand vous entendez des gens parler d'expériences qu'ils auraient faites en étant plus ou moins morts, même si ce sont des médecins qui peuvent écrire cela, eh bien vous savez que ce qu'ils peuvent dire peut provenir aussi d'hallucinations parce qu'ils ont été sous des médicaments et puis sous la morphine. On a toutes sortes de choses qui nous passent par la tête. On ne voit plus les choses comme elles sont, d'une façon réelle. Et je pense que le diable nous dit toute espèce d'histoire pour nous tromper. Et il est un meurtrier. Et au fond, quand on vous dit que de l'autre côté, c'est tellement beau, c'est tellement bien, ce qui est vrai dans un sens, hein, pour ceux qui croient et qui sont avec Jésus, car Paul le dit, hein, être auprès du Christ, c'est de beaucoup meilleur. Et mourir, pour lui, c'était un gain, n'est-ce pas? Tout cela reste vrai. Mais, quant à vous donner des descriptions, eh bien, c'est pas ce que Paul a fait. Il nous dit qu'il y est allé, il ne sait pas si c'est dans le corps ou hors du corps. Lisez ce chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens, hein. Mais il a entendu là des choses ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Et pour qu'il ne se glorifie pas, qu'est-ce qu'il a fallu? Alors qu'on se dit, mais quand on a été ravi au troisième ciel, dans le paradis, il ne peut plus rien nous arriver sur la terre. Hein. Bien justement, il peut y arriver quelque chose. Quoi? S'enorgueillir. Et alors, il lui faudra l'ange de Satan pour le souffléter. Et il a demandé à Dieu de lui enlever cette écharde qu'il avait dans la chair, parce que c'était une entrave, c'était une humiliation pour lui. C'est toujours assez humiliant quand on se sent repris sur un point ou sur un autre. Mais il faut l'accepter. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il faut qu'on en arrive à cela, que la grâce du Seigneur nous suffit. Alors, nous allons simplement relire ces passages et je dirais quand même quelques mots pour répondre au désir de notre cher Larry. Recherchez l'amour et aspirez aux dons spirituels, mais surtout aux dons de la prophétie. Nous avons déjà vu ce qu'était le prophète, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. C'est pas qu'il y ait des différences, mais c'est l'homme qui, non pas nécessairement, comme au fond on le pense au sens vulgaire, qui annoncerait des événements futurs, mais le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Mais maintenant que Jésus est venu, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire, mais Dieu nous a parlé dans le Fils. Et c'est dans le Fils, qui est du reste l'objet de toute la prophétie, que nous devons trouver toutes les réponses dont nous avons besoin. Et je vous cite ici un passage dans l'Épître aux Hébreux qui nous montre que vraiment nous sommes dans une autre dispensation que celle de l'Ancien Testament, où, à ce moment-là, Dieu parlait essentiellement par les prophètes, parce que la révélation n'était pas encore complétée. Mais les Écritures de l'Ancien Testament ont été complétées. Le dernier des petits prophètes, c'est Malachie. Alors, l'Ancien Testament est complet, et qu'est-ce qu'il annonce? La venue du Seigneur. Et le Nouveau Testament, il est complet aussi. Nous avons les évangiles qui ont été confiés à des témoins oculaires de la vie du Seigneur, et en même temps, par une révélation spéciale à un homme qui n'avait pas connu le Seigneur selon la chair, qui s'appelle Paul, et qui, lui, nous dit que son évangile, il ne l'a pas reçu par des intermédiaires, mais il l'a reçu directement du Seigneur. Donc, l'évangile de Luc, qui était le compagnon de Paul, on peut dire que c'est là qu'on trouve, au fond, l'évangile que Paul prêchait. C'est dans l'évangile de Luc qu'on peut trouver l'évangile que Paul prêchait et qu'il appelle son évangile et qui est en plein accord avec Matthieu, Marc et Jean. Il y a des différences, et ce ne sont pas des simples répétitions, mais chacun présente un aspect de la personne de Christ comme vous le savez, comme nous l'avons déjà étudié. Et puis, le Seigneur a confié, depuis la Pentecôte, à ses apôtres le soin de nous dire tout ce qu'il n'avait pas pu leur communiquer avant son départ, parce qu'il n'était pas capable de supporter toutes ces choses. Alors il leur dit, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les supporter. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes ces choses. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. De sorte que quand on lit les écrits de Paul, on est aussi sûr que ce sont les paroles du Seigneur que dans les évangiles. Nous ne faisons pas de différence entre les paroles des évangiles et les écrits des apôtres. Ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont apporté le message. Et le message du Saint-Esprit, ce qui caractérise vraiment le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit agit, il met sur le trône qui ? L'homme ? Jésus, n'est-ce pas ? Il met Jésus à la première place. Il donne la première place à Jésus qui est le donateur. Alors, souvenez-vous de ce que nous avons vu hier soir, c'est que l'amour, c'est Dieu. Et ce qu'il nous faut d'abord, plus encore que les dons, c'est le donateur. Mais comme il a tous les dons, c'est à lui que nous nous adressons pour que, étant membre de son corps, nous puissions accomplir la fonction à laquelle il nous a appelés. Et je lis ce verset que je vous ai cité dans Hébreux, chapitre 1er, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par qui ? Par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Et au fond, le dernier mot de Dieu à l'humanité avant de juger le monde, ça a été Jésus-Christ. Jésus-Christ a été donné après que les Juifs ont tué les prophètes et lapidé ce que Dieu leur envoyait. Alors Dieu a dit, j'ai encore un Fils. Et il l'a envoyé le dernier, nous dit l'évangile de Marc. Donc le dernier mot de Dieu à l'humanité a été la venue de son Fils. Et toute la révélation nous a été donnée dans le Fils, et en particulier à Jean par l'Apocalypse qui termine donc la révélation biblique, le canon des Écritures. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, il soutient toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et toute l'épître aux Hébreux, donc, montre la supériorité du Fils sur toute choses et surtout les hommes que Dieu a envoyés. Maintenant donc, nous avons affaire au Fils qui a prié le Père et qui nous a donné le Saint-Esprit pour être avec nous dans l'Église et pour nous éclairer. De sorte que lorsque nous donnons au Seigneur, que nous acceptons sa parole, que nous la croyons, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Selon que Jésus l'avait promis, n'est-ce pas ? Vous avez connu, disait-il à ses disciples, l'Esprit avec vous, mais ensuite il sera en vous. Et le Saint-Esprit amène Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Donc, toute la plénitude étant en Jésus, quand nous recevons Jésus, nous avons la plénitude en nous. Mais, pour qu'elle se manifeste, et pour qu'il soit prouver que nous sommes remplis du Saint-Esprit, il faut que tout ce qui est de la chair, tout ce qui nous caractérisait avant, soit dans la mort du Christ, pour que Jésus puisse se manifester en nous dans sa plénitude. Donc, il ne sera plus question dans la prophétie d'événements futurs. Ils sont dans l'Écriture, ces événements futurs, mais il y aura, quand on a le don de prophétie, un éclairage, peut-être, sur ces événements. Il y a des vérités qui, au cours des âges, ont été quelquefois oubliées, hein, mais l'Esprit de Dieu, à certains moments, nous les rappelle, remet en lumière des vérités extrêmement précieuses que, au cours de l'histoire de l'Église, on avait oubliées. Ce n'est pas des vérités nouvelles, mais c'est un éclairage nouveau. Cela est rendu à nouveau actuel et à du prix pour nos cœurs. Mais c'est toujours la foi qui a été enseignée aux saints une fois pour toutes. Et comme le dit l'apôtre Pierre dans son testament spirituel, quand il écrit aux croyants, nous avons reçu en partage, vous avez reçu en partage une foi qui a le même prix que la nôtre, n'est-ce pas ? La foi que nous avons en 1991, je l'ai souvent souligné, elle a le même prix que la foi des apôtres. C'est le même enseignement et ces vérités doivent avoir du prix pour nos cœurs. Est-ce qu'elles ont eu du prix pour le cœur des apôtres? Elles avaient tellement de prix qu'ils l'attendaient, ils attendaient Jésus de leur vivant. Et nous, ça devrait aussi avoir tellement de prix que nous ne devrions pas être de ceux qui attendent la mort. Ce n'est pas une espérance. Comprenez-vous? La mort n'est jamais considérée dans l'Écriture comme une espérance, mais comme le salaire du péché. Nous devrons passer par la mort, peut-être, mais ce n'est pas la mort qui est devant mes yeux, parce que je suis délivré de la crainte de la mort. Parce qu'au fond, la crainte que je peux avoir de la mort vient pas de la mort elle-même, parce qu'autant mourir que vivre, comme on vit bien souvent, hein, mais si la mort était la fin de tout, autant mourir si c'est la fin de tout. Mais comme c'est pas la fin de tout, et qu'on le sent très bien, c'est pas la fin de tout, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Le jugement. Et au fond, dans toute conscience d'homme, on sait très bien, malgré qu'on s'appuie sur nos bonnes œuvres, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. On ne peut pas avoir d'assurance si on est basé sur nos œuvres. C'est pourquoi je disais à une personne mourante qu'elle allait traverser le désert. Et si vous vous appuyez sur vos œuvres, dans ce désert, Satan vous attaquera. Mais si vous vous appuyez sur l'œuvre que Jésus a faite, eh bien vous réaliserez le psaume 23. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Et on sait que son œuvre est parfaite. Et que Dieu ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. On n'a pas besoin d'attendre la mort pour faire la confession générale de nos fautes, pour recevoir après l'extrême onction. Ce n'est pas cela qu'il nous faut. Parce qu'en fond, l'extrême onction, qu'est-ce que ça devrait être? Un moyen de
guérir.
De mourir? Non, de guérir. Vous comprenez? Mais ça aussi, peut-être qu'on l'a trop oublié. Et que c'est une misère dans l'Église qu'on ne trouve pas des anciens qui soient prêts, peut-être, à faire l'onction d'huile. Si le malade le demande, on ne va pas aller les asperger d'huile comme ça pour les guérir, non. Mais il est dit, quelqu'un qui est malade parmi vous, que dit l'Écriture? Qu'il appelle les anciens. Et moi j'ai toujours vu cela, que quand ça s'est vraiment passé, comme dit l'Écriture, il y a un travail incroyable qui se fait chez les anciens, qui au fond sentent que pour prier pour la guérison de quelqu'un, il faudrait d'abord qu'il soit en règle. Et j'ai vu des réveils dans certaines églises par ce moyen-là. Tout à coup, un professeur de théologie m'avait dit, il me téléphone à Nice en me disant, il nous est tombé une tuile à Aix-en-Provence, quoi. Et un malade qui nous demande l'onction d'huile. C'était une église réformée. Et donc j'ai dit, mais on demande l'onction d'huile. Et pour lui, il disait que c'était une tuile. Mais parce qu'on ne l'avait jamais fait. Mais voilà que cet homme, il avait lu l'écriture. Et puis les pasteurs d'Aix ne pouvaient pas lui dire que ce n'était pas dans l'écriture. Mais voilà, il fallait le faire. Et alors, c'est pour dire combien ça peut être ridicule. On me demandait, mais quelle huile est-ce qu'il faut employer? C'est pas d'accord. Puis où faut-il la mettre? Et puis toutes sortes de questions. Mais parce qu'on a oublié tout cela. Est-ce qu'il faut un tonneau d'huile? Est-ce que c'est... Où aller la chercher? Est-ce que c'est l'or noir? Ou bien est-ce que c'est l'huile d'olive? Parce que si on est au pays des olives, c'est l'huile d'olive. Hein? Bon. Mais ce qui m'a frappé, c'est justement que le Seigneur travaille quand nous revenons à la parole. Et ces hommes se sont humiliés eux-mêmes devant Dieu, ces anciens, et ils l'ont fait. Et la personne qui était condamnée a été guérie. Donc vous voyez, ça ne vient pas des hommes, mais ça vient aussi d'une obéissance. Mais on ne va pas dire, ben maintenant on fera l'onction d'huile partout. Non, ce n'est pas cela. Mais c'est quelque chose d'individuel. Mais nous ne voulons pas mettre de côté les moyens que donne l'Écriture. Alors, je reviens maintenant au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et pour montrer l'avantage de la prophétie dans le temps présent, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, les exhorte et les console. Tandis que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, je voudrais dire juste quelques mots sur ce don des langues. En soulignant, en résumant un peu toute l'écriture, que cette diversité des langues, comme aussi leur interprétation, parce qu'il ne faut jamais séparer les langues aussi de leur interprétation, si on veut édifier l'Église, vient en dernier lieu dans l'énumération des manifestations spirituelles. Il était cité par l'apôtre en dernier lieu. Et pourtant, c'est ce don des langues qui a probablement fait couler le plus d'encre parmi les chrétiens. Et c'est à cause de ce don que beaucoup de controverses ont lieu. Et cela vient certainement parce que certains milieux lui ont attribué une importance capitale, affirmant que le don des langues est le seul signe initial et individuel d'un authentique baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que certains milieux disent. Alors, selon cette manière de voir intransigeante, toute personne qui n'aurait pas parlé en langue ne peut être assurée d'avoir reçu le Saint-Esprit. Est-ce que c'est votre conviction, d'après ce que vous avez lu de la parole?
Non.
Et alors, si on a cette conviction, donc on n'a pas le Saint-Esprit, on recherche ce don dans certains groupements, on veut une expérience qui ressemblerait aux manifestations qui se sont passées dans l'Église primitive, soit à Jérusalem, à Césarée, à Corinthe ou à Éphèse. Alors, mon but n'est pas de susciter de la polémique avec ces frères qui croient sincèrement posséder ce charisme ou qui témoignent l'avoir reçu. Il y en a qui disent qu'ils l'ont reçu dans la solitude et d'autres dans ce qu'on appelle des réunions d'attente. Et vous savez, je vous parle par expérience. Quand j'avais 15 ans, quand on m'a conduit, j'étais malade, dans une de ces réunions d'attente. Et je ne vais pas vous dire tout ce qui s'y est passé. Mais si je suis encore en vie, c'est parce que j'ai pu en sortir. Finalement, ils voulaient tellement que je reçoive ce baptême qu'ils ont fait une chaîne, ils ont fermé les portes à clé. Et j'aurais bien dû mourir cette fois-là, surtout que j'avais le cœur malade. Mais je me suis trouvé sur la rue, je ne sais pas comment. Et là, j'étais vraiment dans la joie. Et dans l'amour. Mais comme j'étais bien loin de ma famille, au moins à 20 kilomètres, je logeais chez des amis, mais les prédicateurs qui voulaient absolument me baptiser du Saint-Esprit sont venus à minuit frapper à cette porte. J'ai dit, je me jette par la fenêtre si vous les laissez entrer. Parce que certainement j'aurais perdu la raison. Je vous dis, n'est-ce pas, quelque chose que j'ai vécu. Et j'ai toujours béni le Seigneur de m'avoir préservé. Parce qu'on me disait en m'imposant les mains, laisse-toi aller, ne pense plus à rien. Dis alléluia, alléluia. Comment on pourrait dire Allah, Allah, Allah. Hein, chez les mahométans, n'est-ce pas. Oublie-toi. Mais le Seigneur ne nous demande pas cela. J'étais bien désireux de recevoir une bénédiction. Mais il n'est pas dit que je dois me laisser aller à dire n'importe quoi. Vous comprenez? Et alors, ça durait longtemps. Eh bien non, je voudrais que vous soyez épargnés par tout cela. Alors, je voudrais que vous vous placiez simplement en face de l'Écriture. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais la manifestation qui a eu lieu à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est produit? Quand les 120 étaient rassemblés, combien est-ce qui ont reçu le Saint-Esprit? Quelques-uns? Est-ce que c'était pour une élite? Non, il n'y a pas d'élitisme dans le baptême du Saint-Esprit. Ils ont tous été, avant c'était des individus isolés, qui se jalousaient, etc. Et là, ils ont été formés en un seul corps. Tous ont reçu la capacité de pouvoir glorifier Dieu. L'économie du Saint-Esprit a vraiment commencé là, dans ce jour-là. Et est-ce qu'il y avait besoin d'interprètes à ce moment-là? Si vous lisez le chapitre 2 des Actes, quand ils sont sortis, tous ces gens qui étaient réunis à Jérusalem, il y avait au moins 15 nations différentes, entendaient ces gens qui étaient des Galiléens, pour ainsi dire, sans culture, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils louaient. Et il comprenait les choses magnifiques qu'il disait de qui? De Dieu. Donc c'est un événement tout à fait unique. Et qui est-ce qui a donné l'explication de cet événement? Dans sa langue alors, c'est l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Qui nous explique que ces gens ne sont pas pleins de vin doux, il est 9 heures du matin quand ça a eu lieu, Et ils étaient dans, non pas dans l'excitation, mais ils étaient dans la prière, et tout à coup, toute la maison a été remplie de l'Esprit. Et c'est la prophétie de Joël qui s'accomplissait partiellement, car il n'y a pas eu tous les signes dans le ciel, etc., qui doivent se produire plus tard encore. Quand le Saint-Esprit sera redonné, si nous croyons encore, à la vocation juive par la conversion, pour la conversion des juifs. Et alors il y aura tous les signes qui doivent accompagner cette visitation de ce peuple, mais nous n'entrons pas là-dedans. Alors, je me dis, en voyant l'intérêt que vous avez et que plusieurs ont, j'ai écrit, et ces notes que j'ai ici, ce sont des articles que j'ai écrits pendant une année pour un journal français en 1958. Mais comme c'est la parole, c'est toujours la même parole. Sur les dons spirituels, mais chaque don, le don de sagesse, le don de connaissance, mais peut-être que si Dieu me donne de pouvoir le faire, que je publierai ça en livre. C'est écrit, ça a été approuvé, mais la conclusion que je donnais à la fin de cette étude, face à la parole de Dieu, au sujet des langues, je disais ceci, le don des langues ne fut pas donné pour que les croyants y voient le signe d'un baptême individuel du Saint-Esprit. Ça, il faut voir toute la parole. C'est pour les incrédules, et vous l'avez lu, qu'il fut un signe de l'accomplissement de la promesse de Jésus, et c'est le signe de l'économie actuelle où l'évangile est annoncé à tous les peuples et à toutes les langues. Après la Pentecôte, ce don subsista dans l'Église primitive comme une manifestation du Saint-Esprit, comme un don surnaturel, mais conféré par le Saint-Esprit, non plus à tous, mais à l'un ou à l'autre des croyants. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux dans ce que vous avez lu? Est-ce que tous l'ont? Non, l'un ou l'autre. Mais toujours en vue de l'utilité commune. Ce don permettait à celui qui le possédait d'exprimer à Dieu dans un débordement de louanges, des sentiments et des pensées que les mots de sa langue maternelle n'auraient pas su traduire. Cette langue pouvait être, selon l'Écriture, soit une langue humaine, soit une langue, la langue des anges. Par le don d'interprétation, le Saint-Esprit pouvait révéler, pour l'édification de tous, le sens des mystères prononcés en langue. Parce que une langue, c'est une langue, et ce n'est jamais du charabia. Paul, qui possédait le don des langues, préférait, lui, ne pas parler en langue, ne pas en faire un usage dans l'assemblée. Et il insistait pour que les Corinthiens ne se conduisent pas comme des enfants avec ce don-là, mais visent toujours à l'édification du grand nombre. Alors après la lecture des chapitres 12, 13 et 14 de la première épître aux Corinthiens, nous ne voyons vraiment pas pourquoi on peut faire aujourd'hui tant de cas du don des langues, sauf l'erreur et l'esprit sectaire mettent en relief une vérité et l'isolent dangereusement. Je nie pas qu'il puisse y avoir le don des langues, mais là où il est, ce n'est pas la preuve nécessairement qu'il y a le Saint-Esprit. Il faut encore savoir si ce don vient de l'Esprit, parce que nous vous le disons, ça peut se trouver dans toutes les religions. Nous ne sommes donc pas de ceux qui empêcheraient de parler en langue un frère qui posséderait véritablement ce don et qui l'emploierait dans les conditions définies par l'apôtre. Mais nous nous élevons avec force contre la pratique antiscripturaire des réunions d'attente et de la recherche du baptême du Saint-Esprit qui se manifesterait par un parler en langue étrangère ou par des dons ou par des sons incohérents et inarticulés. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Il faut savoir distinguer le parler en langue, don de l'esprit, expression élevée de communion avec Dieu et d'adoration, de louange admirable de Dieu. Si Dieu vous donne cela, loué soit le Seigneur. Là, je dis Alléluia, sans le répéter. Mais il faut distinguer ce don du phénomène physiologique et psychique qui est appelé la glossolalie. Ce dernier phénomène se produit, comme je l'ai déjà dit, dans d'autres religions que le christianisme et chez les spirites. Les spirites aussi parlent en langue. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Et là, c'est comme partout où l'on amène systématiquement les âmes à un état de surexcitation religieuse. Dès lors, le pouvoir hypnotique remplace, hélas, la puissance du Saint-Esprit et ouvre la porte à toutes les contrefaçons et aberrations spirituelles. Dans la mesure où nous marcherons dans la voie par excellence. Là, je réponds à Larry. Nous nous souviendrons que les dons de l'esprit sont toujours en harmonie avec le fruit de l'esprit dont nous avons parlé hier, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, nous serons gardés de toute contrefaçon et saurons avec certitude ce que veut dire à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Je m'excuse, mais je voulais quand même répondre à cette question. Maintenant, nous revenons à la prophétie. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétie édifie l'Église. Alors, je désire que vous parliez tous en langue. Moi, je ne vais pas vous dire, je ne voudrais pas que vous parliez en langue. Si ça peut vous édifier, si c'est ce don-là que vous recherchez, si vous pensez que c'est de cela que vous avez besoin. Mais ça, ce n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Parce que si vous êtes au Seigneur, est-ce que vous l'avez, le Saint-Esprit?
Oui.
Oui, vous l'avez. Comprenez-vous, ce n'est pas quelque chose à rechercher. Ce que vous avez à rechercher, c'est de faire la place au Saint-Esprit. C'est de ne pas contrister l'Esprit. Si, peut-être que le Seigneur a permis cet écart hier, pour que vous puissiez voir combien je me suis senti repris, si j'ai voulu, sans vouloir, parce que je n'y ai pas pensé, je n'étais pas préparé, être dans l'actualité, puisqu'on parle tout le temps du sida, hein, mais je n'ai pas voulu faire un joke. Ceux qui ont cru que j'avais fait un joke, eh bien, ils se trompent. Que Dieu m'en préserve. Mais ce n'était pas du tout ma pensée. Mais puisque certaines personnes ont pu être choquées parce que j'ai dit cela comme ça, eh bien, je m'en suis humilié. Comprenez-vous? Parce que je ne veux pas contrister le Saint-Esprit. J'ai fait peut-être du tort à un frère, à une sœur, alors je lui demande pardon. Parce que je veux pouvoir continuer le ministère que Dieu m'a confié. Parce que je veux aller jusqu'au bout, même si l'on m'arrête. J'irai jusqu'au bout. C'est pas que vous ayez une bonne opinion de moi qui compte. Je suis pas un saint des derniers jours. Je suis un homme de chair, comme vous, aux mêmes passions que vous. Et je sais que je peux, j'ai à m'humilier. Et c'est pourquoi, tout à coup, il m'est venu cette parole, j'avais déjà le texte là, mais « mets une garde à l'entrée de mes lèvres ». à la porte de ma bouche. Parce qu'il peut sortir quelque chose qui n'est peut-être pas de l'écriture, ou que vous allez comprendre, comme si je riais de cela, alors que j'en pleure. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que tous en reçoivent de l'édification. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? Donc un langage qui est compréhensible. Et puis, il donne deux exemples. On peut passer rapidement là-dessus. Les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts. Comment, donc, si les objets inanimés ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Alors, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est clair les exemples que Paul donne. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Hein? Donc, il faut veiller à cela. Je ne vais pas parler en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, vous voyez, c'est la parole qui doit vous convaincre. Il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, parce que si lui-même est en extase, il en jouit, c'est quelque chose de merveilleux, c'est une grâce qui lui est donnée. On a des moments de grâce, vous en avez peut-être aussi, où on a ce sentiment que l'Esprit de Dieu agit et on est comme dépassé, on en a comme un frisson. N'est-ce pas? Vous connaissez ces moments-là? Ces touches de grâce. Mais si je prie en langue, mon esprit donc est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Il est question d'une intimité de plus en plus grande avec le Seigneur, d'une jouissance de plus en plus totale de l'œuvre de Jésus, une révélation intérieure de son amour. Et alors, eh bien, peut-être que nous chanterons par l'esprit, et puis, mais nous chanterons aussi avec intelligence, des cantiques que l'on comprend. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans l'errance, les saints auditeurs répondront-ils? Amen. Il faut que je vous comprenne, c'est pourquoi je vous dis toujours, parler à haute et intelligible voix. Cet après-midi, bon, si vous avez une langue, on ne t'empêchera pas de parler en langue. Mais alors, ayez le don d'interprétation. Ou qui est quelqu'un qui ait le don d'interprétation. Comprenez-vous? Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, gardons-nous de cela. On voudrait pouvoir dire amen à vos prières. Mais quand vous priez dans le public, ne parlez pas dans votre barbe, même si vous n'en avez pas. Parce qu'il y en a qui prient dans un culte, puis ils sont comme ça. Puis vous ne priez pas pour, dans un culte d'adoration, on ne prie pas pour les autres, on s'adresse à qui? À Dieu. On donne notre louange à Dieu. Alors, parlez à haute et intelligible voix de ce que vous ressentez pour Dieu. Et il n'y a pas besoin de faire des longues prières. Il n'y a pas besoin d'une multitude de morts. Si vous êtes dépassé et que la multitude de morts vienne et que ce soit une langue, le Seigneur donnera l'interprétation. Mais, quand je lis les prières des saints de l'Apocalypse, il peut y avoir 7 ou 8 mots dans ces prières d'adoration qui convergent tous vers la gloire, vers l'honneur, vers la puissance de qui ? De l'agneau qui a été immolé. Et l'on se prosterne. À lui la gloire, la louange et l'honneur, tout ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit vrai, une adoration en esprit et en vérité. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié, si c'est dans une autre langue. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, et nous sommes dans l'Église, j'aime mieux dire sainte parole avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, soyons simples. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue, par des lèvres d'étrangers, que je parlerai à ce peuple, et ils n'écouteront même pas, dit le Seigneur. C'est une prophétie d'Ésaïe 28, versets 11 et 12. Et alors l'explication, par conséquent, les langues sont un signe pour qui ? Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et c'est ce qui a eu lieu à la Pentecôte. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant et un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Là, je pourrais vous donner des exemples qui sont absolument frappants, ou à la sortie d'une réunion, d'une prédication, des gens que je ne connaissais pas voulaient pour ainsi dire me tuer parce qu'ils disaient que j'avais révélé leur vie. Ça n'avait pas révélé leur vie, j'avais prêché la parole. Mais ils s'étaient reconnus. La parole les avait touchés. Mais je ne connaissais rien d'eux. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns et les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que toute l'Église parle en langue? Qu'est-ce qu'il a dit ? Que 2 ou 3 au plus parlent. Tous ensemble, comme on l'entend souvent, c'est un brouhaha, chacun à son tour est un autre interprète. Mais est-ce que la parole vous convainc ? Ou bien est-ce que vous serez de nouveau tout de suite bouleversé parce que quelqu'un vous donnera un enseignement différent ? L'enseignement que je vous dis, ce n'est pas le mien. Comprenez-vous ? J'essaye de vous montrer ce que dit la parole. Mais s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et vous savez, si l'on découvrait aussi la valeur des prières silencieuses, vous verriez ce qui se passerait dans l'Église. Si au lieu de venir à l'Église en s'attendant à ce qu'un autre prie, mais qu'on soit dans la prière, eh bien tout d'un coup, dans ce silence, car il est dit que le silence est louange, psaume 65, pour toi le silence est louange, verset 2 dans la traduction corrigée de la Colombe, où Darby a traduit bien, pour toi le silence est louange, ou la louange t'attend dans le silence. Moi je trouve désolant que dans nos milieux évangéliques, il faille imposer le silence au début d'une réunion, par quoi ? Par un cantique. Je trouve ça désolant. Il y a plus de 50 ans que j'essaye de dire cela. Quand on entre, vous pouvez bien vous saluer à la porte, mais quand vous entrez, et c'est ce qu'on essaye de vivre ici le matin, on entre ici dans le silence. Puis on est dans la prière intérieure pour commencer la journée. Vous vous souvenez quand vous fréquentiez les églises de votre naissance? Est-ce que vous chahutiez en entrant? Il y avait un certain respect, un certain silence. Comprenez-vous? Eh bien, ce sont des valeurs qui ne devraient pas se perdre. Parce que si vous voulez entendre la voix de Dieu, il faut d'abord être dans le silence. Mais quand il y a tant de bruit, et puis quand il faut vraiment imposer le silence par un cantique, et que même il faut s'égosiller pour répéter le numéro du cantique qui a été indiqué, parce qu'il y en a encore qui bavardent, mais est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu? Moi, je crois à la présence réelle, non pas dans le pain et dans le pain et le pain, le vin et le vin, hein, mais là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et alors, c'est aussi comme la question vestimentaire. Quand je pense aux gens qui vont dans une salle de théâtre, ils n'y vont pas n'importe comment. Et il y a un relâchement dans tout ce... Pour le Seigneur, c'est toujours assez bon. Que dans nos camps que nous faisons, les camps Mahanaïm, qui sont des camps de vacances, on vous laisse venir en grand déshabillé, en quelque sorte, hein, parce qu'on profite aussi du soleil, on peut faire des études au soleil, tout ce que vous voulez. Mais je vous ai toujours dit aux jeunes, hein, vous n'allez pas dire... On peut venir maintenant dans nos assemblées comme on est au camp. Vous comprenez la différence? Et si les enfants aiment être mis en pyjama avant de les coucher, on ne va pas faire comme on l'a fait à Montréal, des réunions de Noël en pyjama pour passer toute la nuit en pyjama dans une église. J'ai réagi avec beaucoup de force contre des choses qui me navraient quand on voit une invitation, venez avec vos pyjamas, vos pantoufles et tout, et votre robe de chambre. Une descente de police dans une église de ce genre. Qu'est-ce qu'ils penseraient? Mais on aime ça, les gens aiment ça. Qu'on fasse ça au camp, et si on est au camp, n'est-ce pas? Puis après on met les enfants au lit, ils sont bien couchés, ils ont eu leur histoire, ça va très bien. Mais il y a un désordre de plus en plus total dans nos milieux religieux. Et puis ceux qui devraient être des conducteurs, ils admettent tout, puisque les gens aiment. Alors que le Seigneur nous parle et nous instruit. Car il les dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et alors, plus loin, donc, tout doit se faire pour l'édification. Et verset 29, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que tous les autres jugent. C'est-à-dire que il nous faut voir si ce qui est dit est juste et conforme à l'Écriture. Alors, qu'est-ce qui montre qu'un message vient vraiment du Seigneur? Il y a trois choses que l'on a vues au début. une édification, faut que vous sentiez construit, bâti, et non pas nécessairement démoli, mais construit, bâti, édifié, exhorté. Il faut aussi que ça vous touche, peut-être sur un point ou sur un autre. Je me sens exhorté par le message de mon frère. Je ne regarde pas qui est mon frère, mais j'écoute sa parole. Puis je me dis, c'est pas de lui que ça vient, c'est du Seigneur. Et ça correspond à un besoin spirituel. J'étais en train de m'endormir sur ce point-là. Et le Seigneur me révèle. Parce qu'une réunion qui ne m'édifie pas, ou qui ne m'exhorte pas, où je ne reçois rien que simplement, j'attends que l'heure soit finie. C'est peut-être que vous attendez maintenant pour moi. Non, mais je ne sais pas. Vous comprenez, mais c'est tellement drôle. Quand on est en Italie ou ailleurs, les gens nous disent, j'ai fait 2 heures pour venir. J'en veux pour 2 heures. Et comme mon ami René Page, qui est auprès du Seigneur, me le disait un jour, tu sais, ils ne sont jamais fatigués d'entendre la parole, ces gens. Parce qu'ils ne l'ont pas souvent. Il n'y a pas beaucoup de prédicateurs qui leur apportent la parole. Avec mon ami René Page, on aimait apporter la parole. Parce qu'on voyait que ces gens mangeaient la parole. Mais ce pauvre ami a fait aussi des expériences, même dans des facultés de théologie. Quand vous donnez un cours, puis que vous voyez les étudiants qui sont soi-disant évangéliques, qui sont en train de lire un roman, pendant que le professeur donne un cours, et qui vient depuis Emmaüs, depuis la Suisse, dans un autre pays, et puis que vous voyez des choses comme ça, puis ça sera pasteur après. On n'écoute pas parce que on sait tout. Alors c'est vraiment humiliant. Vous savez, il faut passer par toutes sortes de choses dans le ministère. Alors, pour ce qui est des prophètes, eh bien, que 2 ou 3 parlent et que tous jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Me taire ! J'ai pas fini. Mais le Seigneur peut me montrer que ça doit être fini depuis longtemps. Je suis en train de m'égarer. Alors je dois savoir m'asseoir. Parce que peut-être qu'un autre a quelque chose de plus à dire et qui va édifier davantage que ce que je crois dire. Mais au fond, la longueur de mon discours devrait être contrôlée. Je ne parle pas d'une étude biblique comme maintenant, où on va aller à la fin, mais dans un moment de louange et d'adoration, quand on partage, comme on l'espère cet après-midi, eh bien, souvenez-vous que plusieurs doivent pouvoir apporter une parole, mais que ce soit une parole qui vienne du Seigneur. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, vous voyez, on ne se jalouse pas, on ne s'envie pas, on est soumis les uns aux autres, quand on est vraiment dans la direction du Seigneur. Alors, on a un message qui édifie, un message qui exhorte, et puis un message qui console, parce qu'il y a toujours de la souffrance chez plusieurs. Et alors, qu'on ne le fasse pas tous à la fois, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.